On entend beaucoup parler ces temps-ci de budget, et je crains que cela dure encore pendant quelques semaines. Toute la France est centrée sur ce problème. Le budget 2026 sera-t-il voté ou non par l'Assemblée nationale ?
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.
Ce budget, ce n'est pas seulement un acte économique de mettre dans une colonne les futures recettes et dans une autre colonne les futures dépenses et d'essayer d'équilibrer les deux colonnes. Mais il ne s'agit pas seulement de cela, car le budget d'un État fait l'objet de choix qui sont des choix politiques. Si l'on veut augmenter les recettes ou aller chercher l'argent qui manque pour les dépenses, s'il faut raboter les dépenses, dans quel domaine allons-nous le faire ? Ce sont des choix politiques qui ne sont pas uniquement des choix techniques et économiques. Et c'est bien l'enjeu du problème, et c'est pourquoi nous assistons à toutes ces luttes, ces bagarres, ces tensions, ces alliances, ces désalliances politiques à propos de chaque article du futur budget 2026. Tout d'abord, pourquoi pas, demandons-nous d'où vient après tout ce mot « budget ». Eh bien, figurez-vous que ce mot est original, car il a toute une histoire. D'abord, c'est un mot d'ancien français, « bougette ». Bougette désignait au Moyen-Âge une sacoche dans laquelle on pouvait glisser de l'argent. Ce mot a quasiment disparu du français, il est parti en Angleterre. Et les Anglais ont adopté ce mot, bougette, ils l'ont anglicisé, il est devenu budget. Et au début du 19e siècle, il désignait le petit sac en cuir dans lequel le Premier ministre britannique transportait jusqu'au Parlement les documents financiers destinés à l'information des parlementaires. Et le mot est revenu en France, budget est devenu budget. Comme quoi, même avec l'origine de ce mot, nous nous apercevons qu'il a toute une histoire et que les choses ne sont pas si simples que ça. Première question à nous poser, qu'est-ce qu'un budget pour un État ? Eh bien, matériellement, on pourrait dire qu'un budget, c'est l'ensemble des éléments en vertu desquels l'État ou les collectivités territoriales anticipent leurs recettes et leurs besoins financiers pour l'année suivante. Et du même coup, c'est aussi en vertu de ce budget que l'État et les collectivités territoriales sont autorisés juridiquement à mettre en œuvre ses recettes et ses besoins. Chaque année, la loi de finances autorise l'État à collecter les impôts pour son compte et celui des collectivités locales. C'est aussi sur le fondement de leur budget que l'État et les collectivités sont autorisés, dans la limite des enveloppes prévues, à engager de la dépense publique. Le vote annuel du budget constitue donc un acte politique majeur par lequel le Parlement donne aux services publics les moyens leur permettant de fonctionner. Du point de vue de la technique, le budget n'est pas un document comptable. La comptabilité, elle vise à retracer ce qui a été exécuté, réellement. Elle sert, une fois l'exercice clos, à comparer le réel au prévisionnel qui avait été fait. Le budget, lui, est un acte a priori, est un acte de prévision. Quel est actuellement le budget de la France ? Eh bien, en 2024, le montant global des recettes des administrations publiques était de 1 501,6 milliards d'euros. Mais le montant global des dépenses des administrations publiques était de 1 670,2 milliards d'euros. Il n'est pas nécessaire d'être très fort en mathématiques, vous vous apercevez tout de suite que les dépenses ont été, en 2024, plus importantes que les recettes. C'est-à-dire que le budget est parvenu à un déficit, un solde négatif de 168,6 milliards d'euros. Quand on est en situation de déficit, que peut-on faire ? Emprunter de l'argent à une tierce personne pour combler le trou. Et c'est ce que fait la France depuis bon nombre d'années. Mais voilà, cet argent emprunté à un coût, il donne lieu à des intérêts, et si l'on emprunte chaque année pour combler le trou, en réalité, on ne fait que creuser le trou à longue échéance. Et cela provoque aussi un effet pervers auprès de ceux qui prêtent l'argent, car ils perdent confiance dans l'emprunteur et dans sa capacité de rembourser. Aujourd'hui, lorsque l'on prête de l'argent à la France, les taux d'intérêt sont donc de plus en plus élevés. Nous sommes dans un véritable cercle vicieux et il faut absolument s'attaquer avec fermeté à cette situation pour déjà ne pas aggraver la situation et ensuite essayer un jour de rétablir un équilibre. Tout budget, normalement, doit être à l'équilibre. C'est-à-dire que les dépenses ne doivent jamais être plus importantes que les recettes. Il faudrait mettre un petit bémol en ce qui concerne les investissements. Car un investissement peut provoquer un déficit, mais à long terme, il va provoquer un rendement. À la fin du deuxième trimestre 2025, la dette de la France s'élève à 3 416 milliards d'euros, qui représente 115% du produit intérieur brut. Pour comparer avec d'autres pays d'Europe, la Grèce a un taux d'endettement de 152% du PIB, la France, nous l'avons dit, 115, la Belgique, 106, l'Espagne, 103. Et les plus bas sont la Bulgarie, 23,9, l'Estonie, 24. En moyenne, la dette publique de la zone euro atteint 88% du PIB. Nous allons maintenant nous pencher sur un projet qui fait partie du budget 2026, celui de la baisse drastique de l'aide de l'État aux radios associatives. Je pense que cette question vous concerne si vous m'entendez à l'heure actuelle. Vous êtes attaché à cette radio que vous écoutez. Or, sachez-le, elle est en grand danger. Lorsque les radios ont pu librement se créer, à partir de 1980, quelques années plus tard, le gouvernement a pensé qu'il fallait aider les radios associatives locales qui n'avaient pas ou très peu de revenus publicitaires. Alors, coup de génie, on inventa une taxe sur toutes les publicités des radios et des chaînes de télévision. Cette taxe alimente une caisse. Cette caisse est gérée année après année pour aider les radios associatives. Cette aide s'intitule le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et elle est inversement proportionnelle au budget de la radio. Chaque année, ce fonds est plus ou moins remis en question, ce qui n'est pas très confortable pour les radios. Mais cette fois-ci, dans le projet de budget, le fonds de soutien devrait être abaissé de 44%. Cela va mettre beaucoup de radios associatives, comme celles que vous écoutez en ce moment, dans une situation très difficile, car cette aide du fonds de soutien représente, selon les radios, entre 30 et 80% du budget. Perdre ainsi ne serait-ce que 30% de ses recettes du jour au lendemain ne peut qu'engendrer des situations difficiles. Il faut savoir qu'il y a à l'heure actuelle 770 radios associatives qui reçoivent donc cette aide de l'État. Ces radios associatives emploient 3000 salariés et sont animées par plusieurs dizaines de milliers de bénévoles. Soulignons qu'économiquement, elles produisent un effet multiplicateur de 2,8, c'est-à-dire pour chaque euro public investi, il y aura à la sortie près de 3 euros de retombées économiques locales, dans les emplois, dans les prestataires, dans la formation, etc. Cette réduction drastique risque de faire disparaître 250 à 300 radios et de supprimer 1500 emplois directs. Or, ces radios représentent le seul média de proximité dans de nombreux territoires et elles assurent un service d'intérêt général. L'information locale, l'éducation aux médias, le lien social. Elles participent à la cohésion du pays en donnant la parole à celles et ceux que les grands médias souvent n'atteignent plus. Les radios associatives se mobilisent, elles ont alerté leurs députés respectifs, elles ont déjà eu un entretien avec les ministères, elles espèrent, tout comme vous je pense, que cette mesure ne sera pas votée et que le fonds de soutien aux radios associatives pourra se poursuivre l'an prochain dans de bonnes conditions.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.